Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette rencontre organisée dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, coordonnée par l'association Présence à l'ENS de Lyon. Le thème de cette année est « Pour notre santé mentale, réparons le lien social ». Dans ce cadre, nous avons choisi de nous interroger sur le rôle de la parole. Pourquoi prendre la parole pour parler de sa santé mentale ? Pourquoi donner la parole à d'autres ? Comment la parole permet-elle de retisser du lien, de rendre visibles des réalités parfois invisibles ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de vous recevoir deux invités. Ma première invitée est Élise Cassan, actuellement en master de biologie à l'ENS de Lyon. Elle a traversé l'anorexie mentale et a choisi de témoigner de son parcours, notamment à travers un TED Talk et un livre. Elle est également présidente de Présence. À ses côtés, Marie Brunner, qui était présidente de Transistor quand je suis arrivée à l'école. Elle réalisait des podcasts dans lesquels elle donnait la parole aux étudiants sur des sujets aussi variés que les handicaps invisibles ou l'expérience de transfuge de classe à l'ENS. Elle a aussi travaillé sur un autre projet dont on aura peut-être le temps de parler. Élise et Marie ont en commun cette envie de parler et de faire parler pour briser les tabous et recréer du lien autour de la santé mentale. Avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Comment ça va ?
Tu veux commencer ?
Je peux commencer. Un peu fatiguée. J'ai eu des grosses semaines. L'organisation des 6 à l'ENS, c'était un gros morceau. Et hier, du coup, on a eu l'apéro d'ouverture. Il y a eu le président qui est venu. Donc, un peu le trac de le recevoir. Mais voilà, globalement, un peu fatiguée. Mais je suis contente de comment se déroulent les premiers événements des 6. Et c'est prometteur pour la suite. Donc, plutôt contente aussi.
Claire ?
Pareil, un peu fatiguée, surtout physiquement, parce que j'ai couru une course il y a 2 jours et je boite. Mais heureusement, c'est la radio, du coup, on voit pas. Mais sinon, ça va plutôt bien. Aussi parce que justement, le projet de podcast dont Emma parlait est enfin terminé après 1 an et demi de travail, donc c'est chouette de voir les projets qui aboutissent. Donc non, ça va plutôt bien.
Super. Je suis contente de vous avoir posé cette question parce que je me fais la réflexion, c'est une question qu'on pose un peu par habitude, mais que quand on parle de santé mentale, c'est important en fait de demander aux gens comment ils vont.
Et toi Emma, du coup, comment ça va ?
Ça va bien. Également des semaines très très chargées récemment, mais assez contente et contente de faire cette émission avec vous aujourd'hui. J'aimerais vous poser la première question sur la parole, puisque c'est le thème de cette discussion, et vous demander à quel moment vous avez ressenti l'envie de prendre la parole ou de donner la parole sur la santé mentale, et est-ce qu'il y a eu chez vous un élément déclencheur ?
Du coup, en ce qui me concerne, c'est plutôt donner la parole. Il se trouve que moi, avant d'arriver à l'ENS, j'ai fait 1 an de césure dans mes études supérieures, où j'ai fait un service civique dans une radio. Et du coup, j'ai découvert ce que c'était que de faire des interviews ou donner la parole. Alors, les sujets étaient bien plus variés, parce que c'était vraiment sur l'actualité locale à Brest. Donc, absolument rien à voir avec ce que j'ai pu faire à Transistor. Mais déjà, je venais de la socio, donc j'avais déjà cette envie et ce goût de donner la parole et de faire parler les gens. Je pense que passer par la radio, ça m'a d'autant plus, ça m'a confortée dans cet exercice-là. Et moi, en entrant à l'ENS, j'ai fait un parcours qui est un peu bizarre, qui est un parcours que peu de gens connaissent parce que il y a très peu de places en master et c'est un peu bizarre. J'étais en master de sciences sociales, mais dans un parcours spécialisé sur les questions de santé, parce que ça existe à l'ENS, en tout cas encore pour l'instant. Et du coup, je suis entrée à l'ENS avec un projet de mémoire sur les questions de santé, et en l'occurrence, moi je travaillais sur le TSA, donc le trouble du spectre autistique chez les femmes, et la question des violences sexuelles. Bref, donc j'avais déjà cette approche-là sur les questions de santé, et quand je suis arrivée à l'ENS, je me suis dit, en vrai, je continuerai bien à faire des podcasts, parce que j'ai aimé cette expérience de radio. Et du coup, j'ai un peu fouillé Transistor, et j'étais assez surprise parce qu'il n'y avait rien, globalement, sur les questions de santé, et notamment santé mentale, alors qu'à l'ENS, on est quand même souvent assez anxieux, angoissé, tout ça, au minimum. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de faire quelque chose là-dessus, donc voilà.
Voilà.
Et pour ma part, dans un premier temps, ça a été surtout prendre la parole. Je pense que ça s'est fait en 2 temps. Le premier temps, c'était quand je me suis rendu compte du coup que j'avais un problème entre guillemets au niveau de ma santé mentale. Donc réaliser ça et prendre la parole pour demander de l'aide à mes parents, demander de l'aide à des médecins, en
verbalisant en fait le mal-être que j'avais pu accumuler durant les derniers mois, les dernières années. Et ensuite, lorsque j'ai fini par aller mieux, par guérir, ça a été prendre la parole pour témoigner et apporter un peu d'aide, si je le pouvais, à d'autres personnes concernées par ces maladies. Et ensuite, dans un spectre un peu plus large, parler de santé mentale, parce que ben, je me suis rendu compte en fait que c'était un sujet très tabou. Et moi-même, j'en avais pas du tout entendu parler avant d'avoir des problèmes en fait de santé mentale, donc je me suis rendu compte à quel point c'était important d'en parler, et que c'était aussi en parlant en fait que souvent on pouvait régler les choses et éviter que tout accumuler, de tout enfouir, et que ça ressurgisse ensuite plus fort. Donc voilà, et ensuite ben, avec présence du coup j'ai profité de l'occasion pour vraiment prendre la parole sur le sujet, et notamment ben, en organisant les SISM à l'ENS, je pense que c'est une grosse prise de parole une sorte de prise de parole et de prise de position sur l'importance de la santé mentale. Voilà.
Est-ce que vous avez déjà eu des retours des personnes qui vous ont écouté, soit parler, vous parler ou faire parler
Oui, j'ai déjà eu des retours de personnes concernées par des troubles de santé mentale qui m'ont dit que ça leur avait fait beaucoup de bien de savoir qu'il et elle n'étaient pas seuls, en fait, dans ce qu'elles pouvaient traverser, enfin, que tout le monde, que c'était des problématiques qui touchaient, en fait, beaucoup plus de personnes qu'on pensait. Et ensuite, j'ai aussi eu des retours de proches qui m'ont dit que ben, les différents angles sous lesquels je pouvais aborder le sujet leur permettaient aussi de mieux comprendre, en fait, ce que leurs proches pouvaient vivre et pouvaient traverser, parce que c'est vrai que quand on n'est pas dedans, c'est difficile en fait d'imaginer ben, qu'est-ce que ressent une personne qui souffre et qui va pas très bien. Donc ouais, c'était plutôt des retours à ce sujet-là, et aussi que c'était ben, du coup important que je fasse ça et que j'en parle, parce que ça permettait de libérer la parole globalement.
Pareil, moi j'ai eu un certain nombre de retours de gens différents. Évidemment, les premiers retours, c'est les retours des gens qui participent au podcast et qui souvent s'entendent pour la première fois. Les gens sont peu habitués, voire pas du tout à s'entendre. Enfin, moi, j'étais en l'occurrence pour Indifférence, donc le podcast où je donnais la parole à des étudiants et étudiantes en situation de handicap invisible, c'est un format qui était assez long, entre 40 et 50 minutes à peu près. On s'entend jamais. Parler aussi longuement, et c'est surprenant les premières fois. Donc déjà, il y a ces premiers retours de « Ok, en fait, j'ai cette parole-là. » En plus, avec du montage, donc on peut être surpris ou surprise du produit final. Mais j'ai eu que des chouettes retours des gens qui ont participé, qui étaient contents, et souvent qui étaient assez surpris de à quel point, même avec du montage, ça restait fluide, et on arrivait vraiment à suivre le fil. Ce qui demande beaucoup, beaucoup de travail de montage en réalité, mais voilà. Et après, évidemment, bah, des retours des proches, des personnes qui ont témoigné, soit les proches qui m'écrivaient directement, soit les personnes qui avaient témoigné, qui m'envoyaient des screens ou des choses comme ça de ce qu'avaient pu leur dire leurs proches. Il y a une autre catégorie de personnes, plus rare, mais qui est importante, je pense aussi, c'est les personnes qui, de manière un peu aléatoire ou non, ont écouté des épisodes et se sont retrouvés et en fait se sont reconnus, et derrière ça a permis des diagnostics. N'a pas eu 50 000, mais il y en a eu quand même quelques-uns, et je trouve que ça montre aussi la puissance et l'impact de parler de santé mentale et de santé de manière générale, surtout sur des via des outils qui deviennent publics comme les podcasts. Et après, un dernier type de retour que j'ai pu avoir, si je parle précisément de l'indifférence, c'est le retour de certaines personnes, certains personnels de l'ENS. On imagine, enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, quand je faisais les podcasts, je pensais pas que des gens autres que des gens de Transistor, que les proches des gens de Transistor allaient écouter. Et en fait, en tout cas, à l'époque, je sais même plus qui était directeur de l'ENS à l'époque, mais les gens écoutaient pas mal, et pas mal. En tout cas, ça pouvait être écouté, et typiquement, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Thibaut Chambrière, donc, qui est le responsable de la mission handicap de l'ENS, qui écoutait les podcasts, et qui était assez surpris en me disant, en fait, là, vous interrogez des gens que moi, je peux suivre depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et je découvre des choses dans le podcast, alors que je les suis depuis longtemps. Donc voilà, je sais que, à l'époque, le président de l'ONS avait écouté des épisodes. Je sais que la responsable de la mission égalité, donc Florence Françon, a écouté aussi. La directrice de la communication, Audrey Homme. Enfin voilà, je sais qu'il y a plusieurs personnes des différentes instances de l'ONS qui avaient écouté, et ça, je pense que c'est aussi important, parce que même si c'est pas destiné à elles et eux directement, c'est important que ça soit écouté, quoi. Voilà.
Je vois. J'ai envie de rebondir sur plusieurs choses. Très intéressant ce que tu dis sur ce que ça a fait aux gens, en fait, de parler et de s'entendre parler. Justement, ça me donne envie de te poser la question. Élise, toi, comment tu t'es sentie de raconter ton histoire, d'aller parler aux gens, notamment à AgroParisTech quand t'as fait ton TED Talk? Et est-ce que t'as aussi prévu des sortes de barrières pour te protéger à ce moment-là ou...
Ben, je pense qu'il y a différentes choses. Je pense, dans un premier temps, ça m'a fait du bien à moi. En tout cas, par exemple, au moment où j'ai écrit mon livre, et où, du coup, donc c'est pas directement parler, mais c'est quand même prendre la parole par l'écrit, on va dire. Où je pense que c'était aussi une sorte peut-être de travail, enfin, la fin de mon travail thérapeutique, quelque chose qui me faisait aussi du bien à moi, en fait, et qui était avant tout destiné à moi et qui ensuite a été destiné aux autres. Mais donc, je pense que ça m'a libéré un peu à ce niveau-là. Et ensuite, quand je prends la parole dans des groupes de parole en clinique ou ben, là ou lors du TED, je suis dans une position un peu différente parce que du coup, c'est pas forcément à moi que ça fait du bien. Enfin, ça fait pas du mal, hein, mais. Et c'est plutôt voir chez les autres une sorte de soulagement parfois selon les questions qui sont posées, les réponses que je peux apporter, une sorte de. Enfin, en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir apporté un petit quelque chose, d'avoir soit de leur avoir mis une petite graine dans leur esprit pour qu'ils disent « Ah oui, ok, bah, peut-être que je pourrais aller demander de l'aide », soit un petit « Je les ai peut-être rassurés pendant quelques jours sur telle problématique ». Et ça, c'est assez gratifiant, je trouve. Ça donne beaucoup de sens à cette sorte d'engagement et à cette sorte de... Ouais, cette sorte d'engagement. Et ça encourage, je trouve, à continuer, en fait, à en parler, à libérer la parole. Voilà.
Mm-hmm. Toi, Marie, sur cette question de la personne parlante, comment tu te positionnes en tant que productrice de podcast?
Y a plein de choses que tu disais, Élise, que je pense que mes invités pourraient dire, même si je ne suis pas dans leur tête. Je pense que ce que tu disais sur le fait que ça arrive à un moment où tu es en... Je ne sais plus comment tu l'as dit, mais en fin de travail thérapeutique, je pense que c'est assez important. Tout à l'heure, tu disais que pour toi, en tout cas, prendre la parole, à un moment, ça avait pu être pour demander de l'aide. Et moi, je pense que, en tout cas, pour la plupart de mes invités, c'est des gens qui étaient déjà qui allaient mieux. Parce que je pense que c'est difficile de prendre la parole quand on va pas bien. Surtout, encore une fois, où sur des formats qui vont être publics, où on parle longuement, où on parle de son intimité. Donc je pense que moi, il y a eu beaucoup ça, c'est que c'est des gens qui avaient déjà entamé un processus de guérison. Enfin, guérison, c'est un grand mot, parce que il y a plein de choses dont on guérit pas, mais en tout cas, qui commençaient à aller mieux. Et qui, pour autant, étaient encore en train de suivre des thérapies, etc. Et beaucoup m'ont justement fait ce retour... a posteriori, en me disant, en fait, là, tout ce que je t'ai dit, c'est des choses que je n'ai jamais dites à mon psy, ou à mes psys, ou mes thérapeutes, que j'ai pas non plus dit à mes amis, et je pense que ça va avec le format du témoignage, qui, je pense, est quand même assez particulier, parce que, en tout cas, moi, tel que je le faisais, je sais pas si tout le monde voit à quoi ressemble le studio, mais le studio Transistor, il est un peu isolé. Souvent, les gens savent pas trop où c'est. C'était toujours un peu compliqué pour amener les invités jusque-là. Mais du coup, c'est un endroit qui est isolé, qui est fait pour, donc c'est un endroit neutre. Je pense que ça, c'est important quand on parle, surtout quand on parle de soi de manière aussi intime. Même si, à la fin, ce qui restait, c'était entre 40 et 50 minutes d'entretien, généralement, il y avait au moins une heure et demie, voire deux heures, ou plus, qui était vraiment enregistré, et en réalité on passait même plus de temps au studio, et je pense que ce temps-là, il est important, et c'est un temps qu'on a rarement, parce que bah, quand on parle avec des amis, même si on parle longtemps, en réalité, souvent c'est un échange, là où moi c'était une de mes un de mes principes, on va dire, de pas intervenir, d'être là uniquement pour poser des questions et pour pas parler de moi, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on fait pas assez. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'aurais aimé avoir comme espace à un moment dans ma vie, donc c'est ce que je voulais offrir aux gens. Donc il y a cet aspect-là, donc moi, j'interviens pas, donc c'est la différence avec une discussion entre amis. C'est donc long, c'est un espace neutre. Je pose des questions, à la différence peut-être avec un psy, qui lui ou elle non plus n'intervient pas, mais moi je pose des questions et j'essaie de vraiment rester focus sur la thématique, même si évidemment les gens sont libres de pas répondre aux questions et de dériver. Et puis ça dure voilà, vraiment longtemps, donc je pense qu'il y a plein d'aspects différents, là j'en ai cité que quelques-uns, qui font que c'est vraiment un espace à part, et qu'il y a des choses qui se disent, qui ne se disent pas ailleurs ou autrement, et je pense que ça c'est important.
Et si je peux rebondir sur ce que tu disais, je pense que ce qui est important avec la parole, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait un endroit en fait, pour la recevoir. Et que c'est vrai que ce qui est très compliqué dans la vie de tous les jours et dans nos sociétés, c'est qu'on a tous déjà croisé quelqu'un, posé la question « ça va et toi ?» Et en fait, c'est presque devenu un mot de politesse, comme si on disait « bonjour » ou « au revoir » au début des conversations. Et que, cet espace, du coup, comme... T'en parlais, Marie, pour accueillir la parole est très rare, même avec ses amis, exactement ce que tu disais. Parce que forcément, on est amené à parler de soi, ou on veut rebondir sur ce qu'a dit la personne avec qui on discute. Et c'est une forme un peu particulière, il y a une forme d'écoute, on appelle ça l'écoute active, qui est une forme un peu particulière d'écoute, et qui consiste en fait, justement, je pense que c'est un peu ce que tu faisais, et qui est pas du tout qui est pas assez répandue, je trouve, à mon goût. Et qui fait que ça peut rendre en fait compliqué aussi de libérer la parole et de parler si on n'a pas d'espace adéquat pour poser ce qu'on a envie de poser.
Voilà. Et un truc sur lequel je voulais rebondir aussi, et moi je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus, parce que du coup ton TED Talk il a été filmé, si je ne me trompe pas il est sur YouTube. Quelque chose que je trouve intéressant aussi, je prêche pour ma paroisse évidemment, mais avec le podcast, c'est que ça fige aussi dans le temps un discours qu'on a par rapport à son trouble, sa vie, ses expériences. Ça fige voilà, ce qu'on ressent à un moment, et c'est intéressant parce que moi j'ai vu plusieurs personnes, qui notamment dans les premières personnes qui ont participé, donc qui, au moment où elles sont venues dans le studio pour enregistrer avec moi, n'avaient aucune idée de à quoi ça allait ressembler, et moi pas beaucoup plus, j'avoue. Et du coup, elles se lançaient un peu dans le grand bain avec moi, et c'est des gens qui m'ont recontacté un an, voire parfois encore plus longtemps après, en me demandant si on pouvait refaire un épisode, qui cette fois n'allait pas être publié, mais pour elles, pour voir en fait justement l'évolution. Et je trouve que ça, c'est aussi quelque chose qui fait que c'est un espace particulier et un type de parole particulier, parce que c'est pas juste une discussion à un moment T et où on n'en garde que quelques bribes et des souvenirs, c'est un moment qui est enregistré. Alors là en l'occurrence il n'y a que la voix, et je pense que ça a grandement facilité les échanges et le fait de se livrer, parce que enfin, encore une fois je sais pas comment tu l'as vécu Élise, mais le fait d'être visible, d'avoir son visage, tout ça, d'être reconnaissable, c'est quand même encore autre chose. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je voulais pas entrer. Mais je pense que ça, c'est important, le fait de pouvoir être enregistré, de pouvoir y revenir, de voir l'évolution. Je pense que c'est précieux. Enfin, je sais pas comment toi, tu l'as vécu, mais...
Non, si, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pareil, quand j'ai écrit mon livre, c'était donc vraiment juste à la fin. Enfin, je commençais à aller mieux, mais c'est vraiment le début. Enfin, parfois, ça m'arrive de retomber dessus et je relis des petits morceaux et je suis là, ah oui, mais même après, en fait, t'as encore évolué d'une manière encore différente et t'as encore parcouru beaucoup de chemin. Et donc, c'est vrai que c'est super intéressant pour ça de conserver, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de conserver ce genre de... Bon, à part des journaux intimes ou... Mais c'est vrai que, en tout cas, encore moins la parole orale, je trouve, de conserver ce genre de souvenirs... pour aussi ça peut être super utile pour faire le point ensuite avec soi-même, voir à quel point on a aussi évolué, parcours des chemins. Donc ouais, c'est des choses aussi importantes, je pense, et qui peuvent être très très utiles pour certaines personnes. Ouais.
On parle pour soi aussi.
Oui, et pour soi aussi. Oui.
Je voulais rebondir sur l'espace dont tu parlais. L'espace de parole, l'espace d'écoute. Est-ce que présence, ce serait pas un peu cet espace aussi?
C'est ce qu'on a voulu, et ce qui a été voulu au départ par ceux et celles qui ont fondé l'association, d'avoir un espace de parole justement pour se retrouver
et que ça soit pas forcément, en fait, alors ça peut devenir ensuite des amis, mais qu'au début ça soit vraiment juste des personnes qui ont ce souhait, en fait, d'écouter, de partager, et qui se retrouvent chaque semaine. Et ça a été un peu compliqué à mettre en place, mais c'est depuis le début de l'année, on arrive globalement aux différents événements, pardon, qu'on organise. C'est un peu ce qui se passe, en fait, c'est les mêmes personnes qui commencent à revenir, et on sent qu'il y a ce climat un peu de confiance qui s'est installé, de choses qui sont dites et qui ne seraient pas forcément dites ailleurs. On arrive maintenant à remarquer quand quelqu'un ne va pas forcément bien dans la discussion, ne veut pas forcément parler pendant la discussion, mais avec qui on peut ensuite échanger un peu à l'écart et qui se livre beaucoup plus facilement. Et on a même une petite anecdote un peu rigolote. Il y a des amitiés, en fait, qui se sont même formées. Il y a des gens qui passent plein de temps ensemble maintenant, alors que de base, ils ne se connaissaient pas du tout, parce qu'ils se sont croisés à présent, c'est que le courant est super bien passé, quoi. Donc ouais, c'est un peu l'idée de présence, enfin en tout cas ce qu'on aspire à faire, et ce qu'on, pour le moment en tout cas cette année, on est en train d'y arriver petit à petit, j'ai l'impression. Après il faudrait l'avis des personnes qui viennent aux événements, parce que ça se trouve pas du tout, mais oui ouais, c'était l'idée, je pense, en présence en tout cas.
Je voulais réagir par rapport à ça. Déjà, je suis trop contente que ça existe, parce que je pense que présence a été créée au moment où moi je partais de l'ENS, et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire, même si c'est pas du tout le même format, etc., avec les podcasts, donc c'est trop chouette que ça existe, et franchement, bravo pour ça. Bravo pour ça. Et je voulais rebondir sur quelque chose que tu disais, que moi j'ai aussi observé. Tu parles des liens qui se créent, et comme là la thématique c'est quand même aussi la question du lien social, moi c'est aussi quelque chose que j'ai pu voir, alors du coup pas entre les gens qui participaient au podcast parce qu'il ou elle ne se croisait pas, mais par contre entre moi et les personnes qui venaient, ça a créé des liens, alors parfois des liens un peu indéfinissables où on ne sait pas trop si c'était de l'amitié ou autre, mais ça crée une connivence, ça crée... Ouais, ça crée un lien de connexion qui est fort et qui ne se perd pas, enfin en tout cas avec la plupart des gens, y compris des gens que je connaissais pas du tout. Généralement, j'essayais, quand c'était possible, de voir les gens au moins une fois avant, histoire de quand même faire connaissance en dehors du micro. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément, les liens qui peuvent se créer, même dans les processus de création, d'enregistrement...
Oui, je suis d'accord. Et je pense que c'est important aussi, ça montre à quel point, parfois libérer la parole, ça crée. En fait, en libérant la parole, souvent du coup, avec ou dans l'espace créé par quelqu'un, ça crée une sorte, en fait, un lien aussi de confiance qui fait qu'on est plus à même, après, je trouve, à rééchanger, à rediscuter vraiment, en fait, et à pouvoir vraiment, du coup, quand ça va pas, le dire. Quand ça va, le partager aussi. Mais ce qu'on peut pas forcément faire avec tous nos amis ou avec nos proches, parce que il y a jamais eu auparavant cet espace un peu de confiance et d'écoute propice, en fait, au fait qu'on se confie. Et parfois, en le faisant une première fois, ça crée aussi le terrain propice pour que les autres se confient aussi, et on peut créer comme ça un terrain plus à même, en fait, à se confier, à libérer vraiment la parole. Mais c'est pas du tout quelque chose de facile, en fait, d'initier spontanément la création de l'espace pour déposer ce qu'on veut déposer, pour que les autres puissent aussi déposer ce qu'ils et elles veulent déposer.
Mmh. Tout à fait, il y a une relation de confiance qui est nécessaire, en fait. Si vous aviez un message à transmettre aux personnes qui hésitent à parler de leur ressenti, peut-être de leur santé mentale, qu'est-ce que ce serait ?
C'est une bonne question, qui n'est pas évidente. Évidemment, si les gens hésitent, il ne faut pas non plus qu'ils se forcent. Je pense qu'il faut aussi être prêt et prête pour le faire. C'est ce que je disais, moi, les gens qui sont venus parler à mon micro, c'est des gens qui étaient quand même déjà, qui allaient un peu mieux. Je pense que c'est vraiment pas facile du tout. Enfin, c'est jamais facile de parler de soi et de son intimité, mais ça l'est encore moins quand on est vraiment dans les moments les plus mal. Donc il faut se sentir prêt et prête. Je pense que c'est vraiment la première chose. Et ensuite, je pense que la question du cadre est quand même vraiment importante. Y a plein de cadres différents. Ça peut être effectivement via un livre, via un TED Talk, via un podcast, via une publication sur les réseaux sociaux, via une conférence. Il y a plein de manières différentes. Je pense que la question du cadre est importante et il faut vraiment s'écouter là-dessus. Pareil, moi, je sais que... En créant les podcasts, c'était hyper important pour moi que les personnes qui participent aient un droit de regard. D'une part, aient un droit de regard, et d'autre part, puissent se rétracter à tout moment. Parce que, encore une fois, c'est absolument pas rien de témoigner publiquement de ce qu'on a vécu, de son intimité, etc. Et je sais que moi, j'aurais aimé, si je participais à quelque chose comme ça, avoir un minimum de contrôle sur ce qui est dit, parce que c'est quand même des... Voilà, on parle quand même de soi, quoi. Et du coup, pour moi, c'était hyper important que tout au long du processus, les gens aient, sachent ce que je fais, comment je le fais, puissent décider d'arrêter sans aucune explication si il ou elle le désirait. Et puis surtout, moi, du coup, il y a quand même du montage, que le montage soit toujours, toujours, toujours validé par les personnes et que je le modifie autant de fois qu'il le faut pour que ça convienne aux personnes qui participent. Donc je pense que ouais, la question de sentir prêt ou prête et la question du cadre, c'est les deux questions importantes pour moi.
Ouais. Moi, je te rejoins sur la question du cadre et du moyen d'expression que chacun et chacune a des moyens d'expression préférés. Je sais que moi, j'aime beaucoup l'écriture, que c'est beaucoup plus facile pour moi plutôt que de directement parler selon les sujets. Et donc vraiment... choisir en fait le moyen d'expression et que ça n'a pas forcément au début en tout cas destination à être public, enfin si ça peut être aussi en fait une parole de soi à soi, de juste poser les mots sur un papier dans un enregistrement qu'on réécoutera ou qu'on réécoutera même pas, mais des fois aussi libérer la parole pour soi, poser des mots, poser des dessins, parce que ça peut être aussi par toute forme d'expression artistique en fait. Ça permet de travailler aussi dessus et on peut y revenir ou pas plus tard, mais ouais, prendre le temps qu'il faut, moi j'aurais dit, c'est pas, enfin il y aura toujours du temps plus tard si on n'est pas forcément prêt, et choisir un moyen qui nous correspond vraiment et pas se mettre de pression à il faut absolument que j'en parle. Si de base le but c'est pour en parler à quelqu'un, ben ça se fera au fur et à mesure, mais d'abord ouais, le faire pour soi et puis ensuite éventuellement pour d'autres.
Est-ce que vous avez des questions dans le public, pour les invités? Sans transition.
Moi j'ai peut-être une petite question, mais ouais. Je suis pas sûre. Enfin, tout à l'heure tu parlais des journaux intimes. À quel point tu peux le rapprocher de... Enfin, est-ce que tu l'as pratiqué ou d'autres l'ont pratiqué dans les personnes que toi tu avais interviewées, et est-ce que ça peut se rapprocher d'une parole orale ou comment ça peut fonctionner?
Moi je suis pas au courant forcément de toutes les personnes que j'ai interviewées, mais effectivement il y en a une partie qui m'ont rapporté ça, que en plus de d'être suivie par des thérapies, c'est des gens qui pouvaient avoir une écriture régulière dans un journal. Alors après, est-ce que les mots de journaux intimes ont été prononcés, je sais plus, j'avoue. Mais je pense qu'effectivement c'est un peu ce que tu disais Élise, c'est une première étape et ça peut être que ça, et c'est déjà énorme. Je pense qu'il y a vraiment deux dimensions. Il y a prendre la parole pour soi et à soi, parce que en fait il y a plein de choses où se les avouer à soi c'est déjà très compliqué et c'est un long processus. Et après il y a prendre la parole en public et on est absolument obligé d'aucun des deux. Je pense que c'est pas les mêmes manières de parler parce que quand on écrit pour soi, enfin moi je parle pour moi parce que c'est quelque chose que je fais quand j'écris pour moi ou quand je parle en public, je dis pas du tout les mêmes choses, c'est toute la difficulté de se livrer en public. Et après, moi, j'ai aussi un autre regard, parce que comme j'en ai la sociologie, j'ai aussi fait des entretiens où là, c'est encore une autre manière de parler et de faire parler les gens, parce que c'est un cadre qui reste intime et anonyme. Pour autant, ça peut être utilisé derrière pour faire de la recherche, donc l'anonymat est là, temporairement. Enfin, donc c'est encore un entre-deux étonnant et différent du podcast. Mais je pense que le journal intime, je le rapprocherais plus de ce qu'on pourrait dire pendant un entretien de sociologie, parce qu'il n'y a pas ce truc où ça sera publié avec un prénom ou avec sa voix, donc il y a encore plus ce côté, il y a encore plus l'aspect anonymat plutôt que le podcast. Je ne sais pas si ça pointe ta question, ou même si c'était ta question, mais...
moi je suis d'accord, et je pense qu'il y a aussi ce truc de... Il y a beaucoup moins de filtres quand on écrit pour soi, parce que on écrit presque comme on pense, ça vient directement, il n'y a pas ce « ah mince, c'est pas un joli mot, faut que je corrige parce que c'est un peu du langage grossier ou je sais pas ». Et du coup, je pense qu'il y a aussi ce truc d'authenticité aussi. C'est aussi, je pense, un espace de parole, et le papier peut tout à fait être un espace qui accueille en fait
cette parole, je pense, au même titre qu'un podcast, que autre chose.
Je viens de terminer par rapport à ça, pour aussi pratiquer le fait d'écrire. Maintenant, ça va mieux, on en parlait avec Marine l'autre fois, mais je trouve qu'il y a quand même ce truc-là, même si je peux écrire comme je pense, j'ai quand même un regard sur ma manière d'écrire qui peut être très dur. Après, ça dépend, moi je suis quelqu'un je suis très exigeante envers moi-même, et qui est un espèce de... Et je pense que dans l'écrit, et je suis allée à une association qui s'appelle Association pour l'autobiographie, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'était dans le cadre du cours de Christine Détré, et on a été voir l'association, et enfin on a été à l'association, et en fait c'est vrai que ce truc-là, quand on écrit, c'est bête, mais moi je me suis toujours dit, mais qui va lire ça un jour si je meurs, ou même si je meurs pas, quelqu'un qui tombe dessus, et... Il y a à la fois ce regard sur moi-même de me dire « Ah tiens, c'est mal écrit » ou « Mon vocabulaire, il est pas aussi... » Il y a à la fois comment c'est rédigé, mais aussi l'envie d'être vraiment très fidèle à ce que je ressens vraiment. Et je trouve que ça demande quand même un certain vocabulaire savoir s'exprimer. En tout cas, pour moi, à l'écrit, c'est arrivé plus tard dans ma vie qu'à l'oral. Et du coup, je pense que... Ouais, c'est deux choses. C'est la manière dont on arrive à s'exprimer si on est plutôt. Si on se sent en phase avec notre manière de s'exprimer à l'écrit. Et aussi, je trouve la manière de. Enfin, la question qu'on peut toujours se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer avec cette matière. Bon, maintenant, avec les podcasts. Enfin, c'est sûr qu'avec les podcasts, c'est encore autre chose. Mais ouais.
Enfin, moi, je voulais réagir par rapport à ce que tu disais. Je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que. Tu le disais bien, quand on écrit, et ça rejoint ta question par rapport au journal intime, je pense, on peut être dur avec soi, effectivement, sur voilà ce que j'écris. Enfin, moi, je sais que régulièrement, je relis, je me dis, attends, je suis vraiment drama queen, pourquoi j'ai écrit ça, etc. Et je pense, en tout cas, encore une fois, dans les retours que j'ai eus, moi, des personnes qui ont participé au podcast que j'ai fait, c'est que l'avantage, c'est que on est guidé. Moi, je suis là pour poser des questions, et du coup, comme on est guidé, il y a moins de, enfin, il y a moins de contrôle, et il y a moins cette, enfin, encore une fois, je ne fais que m'appuyer sur les propos que les gens m'ont dit, mais il y a moins cette exigence envers soi, peut-être différente, peut-être qu'elle vient après coup, je sais pas, mais parce qu'il y a ce truc où moi, je pose des questions, je guide, les personnes se laissent plus porter. Je pense que quand on est seul face à soi-même et sa feuille, et quand on relit, quand on se dit oh, putain, qu'est-ce que j'ai écrit, pourquoi j'ai dit ça, et là, en plus, comme c'est moi qui fais le travail de montage, toujours en demandant aux gens de valider, mais il n'empêche, c'est moi qui coupe. Et en fait, je pense que ça... Faudrait que je repose la question aux gens qui ont participé, mais je pense que ça peut soulager aussi, parce que on part de... Bah parfois d'interviews où ça dure 2-3 heures, c'est quand même hyper dense, et à la fin on arrive à 40 minutes. Évidemment, il faut faire des choix, c'est jamais évident, et je pense que si c'était aux personnes qui participent de faire des choix, ça serait hyper compliqué, voire impossible, parce qu'on a l'impression que tout est important, ou que là, on n'aime pas ce qu'on dit, etc. Alors que moi, j'ai pas du tout ce regard-là. Bon, pour autant, je pense que si on me pose la question de comment est-ce que je monte, c'est beaucoup du feeling, et j'ai pas forcément une réponse hyper carrée et méthodologie hyper stricte, mais je pense que ça peut aider dans la prise de parole, d'avoir quelqu'un qui est là pour cadrer, à la fois pendant l'interview, en posant des questions, et en lidant, en fait, en dirigeant, et quelqu'un qui fait le montage derrière, qui fait qu'on a moins cette exigence envers soi.
Moi, je peux rebondir dessus, mais que j'ai fait l'exercice, et c'est vrai que le fait d'avoir une forme de conversation et d'être guidé, ça aide à se confier et à avoir une forme d'introspection qui est plus libérée, que quand on commence à écrire, on sort face à un miroir, face à soi-même, et ça peut être un miroir qui est dur à regarder, quoi. Et l'exercice de la parole, moi, j'ai la parole beaucoup plus libérée que l'écriture. Je pense que l'écriture, moi, elle se concrétise plus sous des formes d'impulsion, où j'écris un truc, je dis, waouh, ok, waouh, impressionnant, juste là, qu'est-ce que c'est? Mais c'est plus difficile pour moi de la construire, de la construire plus régulièrement sous forme d'un journal intime. Alors que la parole, je pense que, ouais, blablabla, ça peut parler pendant longtemps, et j'aime bien aussi l'exercer, quoi.
Il y a une pratique, enfin justement c'est un nom, mais c'est un peu en fait le fait de faire un journal intime, mais le journaling, et je crois que selon certains, enfin ça dépend le type entre guillemets, mais je crois qu'il y a certains formats où t'as justement tu peux avoir ce genre de questions en fait qui te guident chaque jour, tu as 3 questions différentes et tu complètes pour moins être justement ce que tu disais face à une feuille et tu es là, bon, mais qu'est-ce que j'écris ou avoir que la crainte de se perdre ou voilà.
Ouais, c'est quelque chose qui se développe pas mal parce que du coup, pour partager un petit peu, parce que j'ai été diagnostiqué bipolaire et en fait, donc c'est vraiment la maladie des émotions, on vit les choses très intensément, voilà. Et en fait, il y a justement des personnes qui sont atteintes de ce trouble-là, voilà, qui ont créé des espèces de journaux intimes un peu guidés, justement, avec des questions. Et ça, pour le coup, c'est assez intéressant. Ouais. On n'est pas livré à nous-mêmes sur le papier, mais on a quelque chose pour nous appuyer. Quoi. C'est pas mal.
Et par rapport au podcast, je suis en train de réfléchir aussi la différence de s'exprimer à l'oral. Donc, tu parlais de la différence avec un ami ou une amie ou proche et un ou une thérapeute. Ce serait comme une troisième manière de s'exprimer à l'oral sur un sujet, sur ces sujets-là qui touchent notre santé mentale ou notre intimité. Mais c'est vrai que je suis en train de me dire, pour avoir l'expérience du coup de faire de la thérapie, etc., j'ai l'impression souvent qu'il y a un espèce d'enjeu dans les séances avec la psychologue, par exemple, qui me suit en ce moment, de est-ce que je vais avoir le temps de tout dire, est-ce que ce que je vais lui dire va lui permettre de vraiment comprendre qu'est-ce qui va... Enfin, ça, c'était plus quand j'étais dans des trucs plus psychanalytiques. Là, il y a plus de ce truc-là de elle va m'analyser ou je sais pas quoi, enfin, il n'y a pas d'analyse. Mais il y a quand même un espèce de truc où la séance est courte, enfin, c'est 1 heure par semaine, et moi j'arrive à ce moment-là, c'est hyper important ce qui se passe pour moi, enfin, c'est ma vie, quoi. Et j'ai quand même l'impression que, waouh, il faut que qu'il y ait une espèce de petit enjeu, une espèce de... Enfin, ouais, pas de performance, mais juste de... Là, c'est maintenant, quoi. Et alors que là, c'est vraiment... Enfin, j'ai l'impression j'ai pas fait l'expérience d'être interviewée dans le cadre d'un podcast, notamment, mais je me dis, il y a peut-être ce truc-là qui est un peu plus libre, plus d'espace, en plus, tu parles d'un long temps, enfin... Et je le sais, enfin, parce que tu m'en as parlé, mais de cette longue période où tu peux exprimer, et qui est peut-être, comme tu dis, ça lâche le contrôle à la fois sur l'enjeu thérapeutique qu'on a en thérapie, quoi, et est-ce que je vais avoir l'espace de dire tout ce que j'ai à dire, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus fluide et libre que ce petit moment-là qu'on a, et qui ont un certain coût aussi, enfin, souvent. Il y a aussi ça, je pense, comme enjeu derrière. Enfin, moi, en tout cas, je pense que j'ai ça dans ma tête. Je me dis, je vais pas pouvoir prendre des séances à gogo. J'ai pas l'argent. Et puis même, c'est cadré, quoi. Même s'il y a quand même un cadre, hein, évidemment.
Bah, je pense qu'effectivement, enfin, ça rejoint la question du cadre et du type de médias pour prendre la parole. Et je pense que typiquement, enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, Élise, mais je pense qu'entre un livre... Je sais pas quelle forme il a, mais où en fait c'est toi qui décides d'écrire et tu prends le temps de voir ce que tu gardes, ce que tu enlèves, etc. Ou un tel talk où j'imagine que t'as un temps limité, je sais pas de combien de temps, mais c'est pas du tout la même chose. Et je pense que ça, par rapport à la question tout à l'heure de comment est-ce qu'on pourrait, je sais pas, encourager des gens à prendre la parole ou à quoi est-ce qu'il faudrait qu'il ou elle réfléchisse, je pense que cette question-là, c'est une question qui est importante aussi. Tout à l'heure, on parlait de cadre, mais même au sein des différents cadres et des différentes manières de prendre la parole, il y a celle où il y a une limite temporelle, et c'est ok, c'est un type d'exercice, et celle où il y a beaucoup plus de liberté. Et je pense qu'il y a des gens à qui ça correspond plus ou moins, mais je pense que c'est quelque chose à prendre en compte.
Oui, je suis totalement d'accord. C'est vrai que pour le TED Talk, j'avais 18 minutes, pas une de plus, et je devais. Enfin, et du coup, j'ai dû apprendre plus ou moins un texte par cœur, qui du coup. Même si après c'est du par cœur, mais il y a quelques petites variations, c'est pas je laisse cours à mon imagination, enfin, c'est vraiment préparé en amont, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins cette spontanéité de partager ce que j'ai envie sur le moment, parce que bon, c'est un peu confus avec le stress et tout, mais ça se trouve j'aurais pu pas du tout, beaucoup moins être en accord avec ce que je disais ou avec ce que je voulais dire, et c'était pas le moment d'improviser, quoi. En tout cas, je me le sentais pas. Alors que c'est vrai qu'avec le livre, c'était beaucoup plus au feeling. J'ai beaucoup plus eu le temps de me poser, de réfléchir. Si je voulais écrire et puis pas y retoucher pendant je sais pas combien de temps, enfin, je pouvais, en fait. Et je pense qu'effectivement, la contrainte temporelle, et c'est aussi, en fait, je pense, ça fait partie du cadre et de la pression, enfin, des attentes un peu et de la pression. C'est que pour que... Selon comment on veut libérer notre parole et pouvoir discuter, il ne faut pas forcément qu'il y ait d'attente derrière, il ne faut pas forcément qu'il y ait de la pression ou Ouais, ou qu'on sait que, bah, par exemple, ça va être réceptionné par la psy. Y a aussi, je pense, en tout cas, enfin moi, je l'ai ressenti, ce vécu avec la psy de... Ben, faut que ça soit rentable dans le sens de je suis censée aller mieux à la fin, quoi. Donc, même si j'ai très envie de parler d'un truc, mais que ça que je pense pas ça pertinent, peut-être que c'est pas forcément le moment de. Alors que, ouais, donc je pense que ce qui est important aussi, ouais, ben, pour rebondir sur pour les personnes qui se demandent comment libérer leur parole, comment prendre la parole, etc., il y a cette question de. Faut pas forcément qu'il y ait d'attente derrière, de pression. Enfin, ça peut venir dans un second temps. Mais pour pouvoir, je pense, être totalement libre et se sentir totalement à l'aise, en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait forcément de pression, de proche, d'échéance, de temps, de format, ni d'attente particulière.
Mais pour revenir là-dessus, moi, c'est aussi pour ça que, enfin, moi, quand je suis arrivée à l'ENS, je voulais vraiment créer mon podcast là-dessus et avec une manière de faire, une méthodologie qui était vraiment la mienne, parce que bah, j'étais une grosse consommatrice de podcasts et quelque chose qui, moi, me mettait pas forcément hyper à l'aise, mais en tout cas, c'est pas comme ça que j'avais envie de faire. C'est souvent dans des podcasts, même témoignages, on a souvent les intervieweuses qui participent beaucoup en rebondissant, en coupant la parole, etc. Et moi, c'est pas comme ça que je voulais faire. Et pour moi, c'était hyper important de vraiment faire un podcast, enfin, à mon image, bon, mais donc qui matchait ce que je voulais apporter aux gens. Et justement, ce truc de. Vous avez un espace et en fait vous en faites ce que vous voulez. Moi ce que je vous donne c'est du temps, un micro. Alors oui j'ai des questions mais en fait les questions vous pouvez ne pas y répondre. Moi c'est arrivé plein de fois que des gens, je leur pose une première question. En fait les gens parlent, ça dure je sais pas un quart d'heure, 20 minutes, ce qui est quand même très long. Quelqu'un qui parle pendant un quart d'heure, 20 minutes non-stop c'est assez rare en fait. En tout cas dans un cadre comme ça où on est deux et pas une conférence ou autre. Et c'est pas grave, moi je suis là pour laisser dérouler et enfin... Et bon, c'est en réflexion, mais moi, justement, je m'interroge dans ma pratique, parce que là, je continue à faire des podcasts, toujours un peu sur ces thématiques-là, etc. Moi, ça m'interroge sur à quel point, en fait, je suis pas entrée dans une pratique qui est presque de l'ordre du care ou du soin, parce que justement, je suis vraiment là pour... Je donne un espace, et les gens font ce qu'ils ou elles veulent, les gens répondent ou pas aux questions, dans l'ordre qu'ils ou elles veulent, et je pense que ce truc de liberté totale, en fait, on l'a pas, quoi. On l'a pas et c'est hyper important et je sais pas à quel point ça deviendra pas une forme de soin un jour quoi.
Bah c'est vrai que moi du coup j'ai eu l'occasion de pratiquer et de parler de la santé mentale dans plusieurs sphères amicales, du coup sous forme de podcast ou avec des plein de types de personnes et à chaque fois c'est différent et à chaque fois la place de la parole et la libération de la parole elle est différente. Et du coup, c'est vrai que quand on est dans des exercices un peu plus cadrés, et ben peut-être qu'on doit plus réfléchir, être plus incisif, à moins faire de digressions, etc. Mais quand on est dans quelque chose de plus long ou dans une interview un peu fleuve où on peut laisser couler un peu tout ce qu'on veut, ben c'est vraiment différent et je pense que ça se complète. Mmh. Et c'est vraiment, en fait, je pense que plus on parle, plus on a l'occasion d'en parler, ben mieux c'est en fait. Parce que du coup, voilà, on essaie de casser les tabous. Et c'est vrai que ça faisait pas mal écho à la manière dont, Sybille, tu pensais quand tu venais chez le psy, etc. Moi, c'est vrai que j'ai une sorte de pression de rentabilité, parce qu'au final, c'est vrai que les soins, ils sont toujours pas remboursés. Faut toujours raquer, quoi. Et du coup, c'est qu'une heure. Et du coup, moi, je me fais une espèce de liste avec des points et bullet point. J'arrive, tchac, 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 tchac. Parce que c'est vraiment ça. Il faut être performant.
Mais j'ai quand même l'impression, et pour avoir du coup fait des études dans les soins, etc., on nous parle quand même beaucoup de ce truc-là en fait, et notamment en psychologie, psychothérapie et psychiatrie aussi. Bon, la psychiatrie, c'est... Mais ce truc-là de donner quelque chose. Et notamment, donc je suis passée dans des stages, notamment en pédopsychiatrie, et il y a certains pédopsychiatres qui pratiquent ça avec les enfants, qu'ils ramènent qu'il y a un échange, en fait. Et bon, ça peut, c'est un truc qui peut être important d'un point de vue thérapeutique, en fait, qu'il y ait un échange, quoi, que ce soit pas juste, justement, un cadre qu'on a déjà, famille, amis, etc. Et en fait, donc ça peut être, mais il leur disait, juste tu ramènes le plus beau caillou que tu as trouvé. Enfin, chaque enfant se l'approprie comme il veut. Et donc il y a des enfants qui vont ramener un caillou, une feuille, ils pourraient même ramener un mégot, hein. Enfin, c'est juste ramener un truc qui a de l'importance pour lui. Et bon, il y a un peu deux écoles, il y a des psychiatres qui disent, mais c'est, non, enfin, c'est quoi ce truc-là? Et il y a d'autres qui disent, si, enfin, c'est juste, c'est pas de l'argent, quoi, c'est vraiment. Mais voilà, ce truc-là. Et j'ai l'impression que, en tout cas pour l'expérience que j'ai faite,
Ben, moi, je me demande si c'est pas un peu vrai, cette histoire-là, que ça nous... Pas que ça me coûte quelque chose, mais que ce soit important et un peu précieux. Et par exemple, ben, la psychiatre, je la paye pas, mais c'est quand même précieux, parce qu'elle a pas 15 000 rendez-vous. Voilà, il y a une sorte de... Il y a une forme de quelque chose de précieux. Et je me dis, ben, pour revenir sur, quand même sur où est-ce de quoi on parle, un podcast aussi, ben, enfin, par exemple, le format podcast... du coup, que je connais puisqu'on en a parlé, mais il y a ce truc-là aussi, c'est précieux. Même si c'est long, c'est précieux, parce que c'est une fois dans la vie, peut-être plus, mais il y a quand même un truc précieux. Et je pense que c'est peut-être ça qui permet aussi de... Bah, de créer une parole à la fois, enfin, une espèce de... Parce que c'est ça que tu disais, enfin, un peu un... Enfin, les deux, enfin, ça se complète, en fait, le côté se préparer à son rendez-vous, être, comme tu dis, incisif, donner des trucs, ou juste parler comme ça...
Par rapport à ça, moi, je voulais rebondir sur la question de l'échange. C'est une question qui m'a beaucoup travaillée parce que il se trouve que j'ai fait mon mémoire de M2 sur ma pratique de podcastrice, justement en donnant la parole sur la question de santé et qu'est-ce que ça faisait aux gens qui participaient. Donc j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là, et quelque chose que je faisais de manière un peu intuitive au début, et en fait plus le temps passait et plus je me rendais compte que c'était important et que ça presque définissait le moment qu'on allait avoir après, c'est justement le moment avant l'interview. Et ce truc de... les gens viennent me livrer des choses hyper intimes, hyper personnelles. C'est pas un exercice facile. Mais il y avait cette question de qu'est-ce que je leur apporte, en fait. Enfin, qu'est-ce que je leur donne en échange. Alors, évidemment, il y a le temps, et ça, enfin, on l'a dit, c'est précieux, surtout que ce n'est pas payant. Donc avoir 4-5 heures ou plus où on peut juste déverser, c'est précieux. Mais moi, en plus, je me suis rendu compte que quand, en amont de l'interview, souvent déjà dans le studio, je me livrais moi aussi sur des choses perso. Alors souvent, j'évitais les questions de santé parce que j'avais pas envie qu'on aborde ces questions-là avant de lancer l'enregistrement, mais je pouvais livrer des choses sur ma vie personnelle. En fait, ça change tout. Parce que même s'il n'y a pas d'échange dans le moment de l'enregistrement, même si évidemment il y a des choses, il y a du non-verbal qui est là et pas empêché, mais moi je n'interviens pas pour raconter ma vie pendant l'enregistrement. Moi ça me paraissait important de donner de moi aussi en amont pour que ce soit un vrai, pour que ce soit équilibré, parce que sinon on peut avoir le sentiment que c'est déséquilibré, quoi.
Mmh. Et c'est ça aussi peut-être qui diffère aussi dans le, en théorie normalement, dans les rendez-vous avec des professionnels, c'est qu'ils ne sont pas censés en fait se livrer. Mmh. Et c'est ça aussi qui, je pense, l'importance, bah, c'est pour faire le lien, justement, c'est, je pense, pour pouvoir échanger, en fait, la parole est une sorte de lien aussi, je pense, et donc, en se livrant et en réceptionnant la parole d'autres personnes, ça crée un lien, et ça peut aussi rapprocher, on a vu, ça pouvait créer des amitiés, et faire le lien aussi, parce que on a cette confiance de, avec cette personne, je peux discuter, j'ai l'espace, j'ai la place, j'ai le temps, qu'on n'a pas forcément ailleurs, en fait.
Et sur ce, je vais devoir conclure. Désolée. Mais je vous remercie pour votre présence, Marie et Élise, et vous également, pour votre confiance et vos témoignages. Merci aussi à Présence d'avoir organisé les sismes à l'ENS et de permettre des discussions autour de la santé mentale et de la parole.
Voilà. Merci beaucoup, Emma.
Merci.